Avant mes quelques semaines de vacances, pour ceux qui étaient là, j'avais fait une petite série de 3 prédications sur le premier chapitre de la Genèse. Il se trouve qu'il reste 3 dimanches avant le dimanche de rentrée qui sera le 11 septembre. Alors après 3 prédications sur le premier chapitre de la Genèse, je vous propose pour ces 3 dimanches, 3 prédications sur le dernier chapitre de l'Apocalypse. Il y a une logique, une cohérence, hein, quand même. Donc je vous invite à lire le début de ce chapitre 22 de l'Apocalypse pour ce matin. Nous trouverons le texte au chapitre 22 et nous lirons les versets 1 à 5. Apocalypse 22, 1 à 5. Il me montra, c'est l'ange qui révèle cette vision à Jean, il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, sortant du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la grande rue de la ville et sur les 2 bords du fleuve, un arbre de vie produisant 12 récoltes et donnant son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses esclaves lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. La nuit ne sera plus et ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, car c'est le Seigneur Dieu qui les éclairera et ils régneront à tout jamais. Si nous voulions avoir la description complète de la Jérusalem nouvelle, dont on a un extrait ici, il aurait fallu lire aussi le chapitre 21. C'est au chapitre précédent que la description commence. Mais jusqu'ici, dans tout le chapitre 21, la description soulignait combien cette Jérusalem nouvelle était radicalement différente de tout ce qui avait été connu jusqu'ici, y compris dans la Jérusalem terrestre de l'histoire biblique. Oui, on nous décrivait au chapitre 21 une ville qui descend du ciel, qui était de forme cubique, faite de matériaux très précieux et glorieux, et il n'y avait pas de temple. Donc autant de différences d'avec la Jérusalem terrestre. Mais ici, avec le début du chapitre 22, la fin finalement de cette description de la nouvelle Jérusalem, on entre dans la ville pour voir ce qu'il y a au centre, au cœur de la ville, dans la rue principale, l'artère principale de la Jérusalem nouvelle. Et on y découvre, aux surprises, des éléments bien connus du lecteur de la Bible. Des éléments qui pourtant avaient disparu depuis bien longtemps et qui font ici, dans l'ultime chapitre de la Bible, leur réapparition. À commencer, bien sûr, par l'arbre de la vie. Au milieu de cette ville se trouve l'arbre de la vie. Un arbre irrigué par un grand fleuve, apportant abondance et fertilité là où il passe. Tout comme le jardin d'Éden, dans le jardin d'Éden de la Genèse, on avait ce fleuve, on avait cet arbre de vie, on avait cette abondance et cette fertilité. Tout comme ce jardin dont l'homme avait été exclu à cause de sa rébellion. Le projet de Dieu, qui trouve son accomplissement ici, dans ce dernier chapitre de l'Apocalypse, ce projet est-il donc simplement de rétablir ce qu'il y avait à l'origine? Oui et non. Parce que le paradis de la Nouvelle Jérusalem n'est pas tout à fait le paradis du jardin d'Éden. C'est un peu pareil qu'au début, mais c'est mieux encore. Alors c'est un peu pareil parce qu'on retrouve certains éléments, on l'a dit, hein, commencer par cet arbre de la vie. Et quand on a cette vision ici de l'Apocalypse, on peut avoir l'impression que la boucle est bouclée. que le projet de Dieu est en passe de s'accomplir et de se terminer. L'histoire du salut est en train de s'achever sous nos yeux devant cette vision de Jean dans l'Apocalypse. Il y a évidemment une référence au Jardin d'Éden, les chapitres 2 et 3 de la Genèse, un épisode qui se termine de façon dramatique, puisque à cause de sa rébellion, à cause de son insoumission à Dieu, l'homme et la femme ont été chassés du Jardin d'Éden. Et la fin du chapitre 3 de la Genèse nous dit qu'ils sont chassés pour ne plus pouvoir toucher à l'arbre de la vie. Et d'ailleurs, Dieu, pour prévenir toute possibilité de revenir, va placer des gardes redoutables, des chérubins, des êtres gardiens assez effrayants, armés d'une épée, nous dit même la Genèse, et ils sont là pour bloquer, pour interdire l'entrée à nouveau, non seulement dans le Jardin d'Éden, mais surtout l'accès à l'arbre de vie. Autrement dit, l'arbre de vie, depuis la révolte des humains, depuis l'apparition du mal et du péché dans l'humanité, est inaccessible. L'accès est bloqué. Et en voyant, à la fin de l'Apocalypse, ce même arbre de vie réapparaître, ouvert à tous, au milieu de la ville, il n'y a plus de garde pour y interdire l'accès, mais au contraire, on nous parle des nations qui sont là, et qui peuvent même se nourrir de cet arbre de la vie qui produit du fruit à chaque mois, eh bien cette vision-là affirme que ce qui avait été perdu à l'origine à cause du péché est retrouvé. L'accès qui était interdit est à nouveau ouvert. L'arbre de vie, symbole de la pleine communion avec Dieu, est à nouveau accessible. En étant chassés du Jardin d'Éden, l'homme et la femme ont été privés de la pleine communion avec Dieu. Dans l'Apocalypse, dans la Jérusalem nouvelle, cet arbre de vie qui réapparaît promet une pleine restauration de la communion avec Dieu pour tous ceux qui seront dans cette ville. Cette communion pleinement restaurée, c'est un des aspects au cœur de notre espérance. Pourtant, même si on retrouve cet arbre de vie, si l'accès est à nouveau ouvert, l'accomplissement du projet de Dieu n'est pas un simple rembobinage de la bande, ou si vous êtes plus moderne, ce n'est pas un simple reboot du système. C'est quelque chose de nouveau. Des formules ici témoignent d'une histoire écoulée. Il n'y aura plus de malédiction. Parce qu'il y a eu des malédictions. La nuit ne sera plus. Parce qu'il y a eu des temps de nuit dans l'histoire de l'humanité. L'arbre de vie n'est plus seulement celui qui apporte la vie, mais celui qui apporte la guérison. Il est là pour la guérison des nations. Il faut dire qu'il y a de l'eau qui est passée sous les ponts de l'humanité depuis l'expulsion du Jardin d'Éden. Un temps qui a amené son lot de souffrances, d'épreuves, ces heures sombres, ténébreuses dans l'histoire de l'humanité, qui n'en manquent malheureusement pas. Il y a eu des temps de malheur et de malédiction. Il y a eu des temps de nuit et de ténèbres. Et l'espérance qui est décrite ici montre que Dieu a intégré cette histoire écoulée et qu'il apporte finalement la guérison pour tous ces temps d'épreuves, de ténèbres et de malheurs. Dieu apparaît dans cette vision comme un Dieu persévérant et patient, un Dieu qui n'abandonne pas ses projets. La révolte de l'humanité qui l'a conduit à l'expulsion du Jardin d'Éden a contrecarré le projet de Dieu. Et Dieu aurait pu laisser abandonner l'humanité et passer à autre chose. Mais il avait des projets pour l'humanité. Et ses projets, il ne les a pas abandonnés. Il a pris le temps qu'il fallait pour que son projet aboutisse. Et là, dans cette vision, on a l'image de l'aboutissement de ce projet, qui va durer, puisque on n'y est pas encore, peut-être bientôt, mais même si c'est très bientôt, cela dure des millénaires, l'accomplissement du projet de Dieu. Et même s'il lui faut des milliers d'années pour restaurer ce qui a été brisé, Dieu le fera, parce qu'il n'abandonne pas ses projets. Et ce qui est vrai à l'échelle de l'histoire de l'humanité est vrai aussi à l'échelle de nos vies. Dieu n'abandonne pas ses projets pour vous. Dieu est patient et persévérant avec nous. Il montre cette même persévérance à accomplir ses projets. Pourtant, nous ne nous montrons pas toujours très coopératifs, avouons-le. Ce qui explique que parfois il faut du temps. Et parfois, ce n'est pas une longue ligne droite, mais que c'est un chemin compliqué, avec parfois même des lacets très serrés. Mais Dieu est patient. Et Dieu poursuit ses projets pour nous. Et il les mènera à bien, parce qu'il n'abandonne pas ce qu'il a commencé de faire. Ce que Dieu a commencé de faire en nous, en vous, il le mènera à son accomplissement, parce que Dieu ne renie pas ses promesses, parce qu'il n'abandonne pas ses projets. Dieu apparaît ici comme quelqu'un qui répare ce qui était détérioré, brisé, en remettant l'accès à l'arbre de vie. Mais Dieu n'est pas qu'un simple réparateur, il est créateur. Et c'est pourquoi la vision ultime de l'Apocalypse nous montre pas seulement quelque chose qui rétablit ce qui a été perdu, pareil qu'au début, mais quelque chose de mieux encore. Et il y a plusieurs signes, plusieurs indices dans cette vision qui montrent que c'est autre chose que nous attendons plutôt qu'un simple retour au jardin d'Éden. Déjà, c'est une ville et pas un jardin. Dans la Genèse, c'est un jardin. Dans l'Apocalypse, c'est une ville. Et la ville, c'est l'empreinte des hommes dans l'histoire. Ce sont les hommes qui construisent des villes. Eh bien, Dieu intègre cette histoire de l'humanité dans l'accomplissement de son projet. Il aboutit dans une ville. Certes, une ville qui descend du ciel. Certes, une ville qui est l'œuvre de Dieu, mais qui prend la forme d'une ville qui est l'image, le symbole de l'empreinte laissée par les hommes dans l'histoire. Dieu intègre notre histoire dans son projet. Et puis, il y a un trône. Un trône au milieu de la ville. Il n'y avait pas de trône dans le jardin d'Éden. Un trône partagé. C'est le trône de Dieu et de l'agneau. Alors vous savez sans doute que l'agneau, dans l'Apocalypse, c'est le symbole du Fils de Dieu incarné, devenu homme, qui est mort en sacrifice et qui est ressuscité. Voilà l'image de l'agneau. Et quand on dit qu'il y a le trône de Dieu et de l'agneau, on nous parle du trône de Dieu, du Dieu non seulement créateur, mais aussi sauveur, de celui qui a accompli son plan de salut pour l'humanité. Et ce trône au milieu de la ville, c'est le symbole de l'œuvre de salut accomplie par Dieu, par l'agneau, en Jésus-Christ. Ce qui fait, et là, c'est en cela que c'est mieux encore, ce qui fait monter quelque part l'humanité sur le trône de Dieu. L'agneau, c'est le Fils de Dieu devenu homme. Parfaitement Dieu, parfaitement homme. Et l'agneau est associé au trône de Dieu. L'humanité monte sur le trône de Dieu en Jésus-Christ. Et ça, mes amis, c'est mieux qu'au début. C'est mieux encore. Dans la Genèse, les hommes ont voulu devenir comme des dieux et ils ont été chassés du jardin. À la fin de l'Apocalypse, Dieu est devenu un homme pour sauver l'humanité. Et ça, c'est bien mieux encore. Et puis, il y a la gloire qui enveloppe cette vision, une gloire plus grande que dans le premier paradis, parce que dans le premier paradis, dans le jardin d'Éden, il y avait le soleil. Ici, la gloire est telle que le soleil n'est même plus utile. La gloire elle-même est le soleil de l'humanité rachetée. Bref, cette vision finale évoque un Dieu qui ne se contente pas de réparer, mais qui fait tout à neuf. Dieu n'est pas qu'un réparateur, il reste et demeure aujourd'hui un créateur. Il ne revient pas en arrière pour recommencer. Il va de l'avant pour recréer et faire mieux encore qu'au début. Alors pourquoi est-ce que nous ne laissons pas faire la même chose dans notre vie trop souvent? Pourquoi si souvent nous préférons essayer de faire un petit peu du bricolage nous-mêmes, d'essayer nous-mêmes de colmater les brèches de notre vie, de panser les plaies et les blessures, d'essayer par nous-mêmes, par notre force, de nous améliorer, de progresser? Pourquoi est-ce que nous ne faisons pas assez confiance à ce Dieu qui fait tout à neuf? Pourquoi est-ce qu'on se contente trop souvent d'être des chrétiens rafistolés, alors que le Seigneur veut faire de nous des nouvelles créatures? Il fait tout à neuf. Cette vision ultime de la fin de l'Apocalypse, évidemment, elle alimente notre espérance. Mais elle doit aussi nous encourager à laisser le Seigneur poursuivre son œuvre en nous. Persévérant et patient, il n'abandonne pas son projet. Créateur infatigable, il désire faire tout à neuf, y compris dans notre vie. Laissons le Seigneur faire de nous des créatures nouvelles pour nous préparer un jour à être citoyens de la Jérusalem nouvelle. Amen.